Ce matin, je vais vous parler, je vais commencer avec un certain nombre de préoccupations qu'on peut avoir, parce que je ne sais pas si vous êtes, si ça vous arrive de temps en temps d'être dans l'incertitude et de douter. Et cette question des doutes que nous pouvons avoir pour plein de choses, mais aussi parfois, nous sommes les héritiers lointains d'une femme qui a entendu un serpent lui dire « Est-ce que Dieu a vraiment dit telle et telle chose ?» Donc, nous ne sommes pas à l'abri de cela, et j'aimerais commencer par là, mais je ne vais pas en rester là, que ce soit bien clair. Nous doutons parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Paul dit « Nous ne connaissons qu'en partie » dans 1 Corinthiens 13, 9. « Nous ne connaissons qu'en partie. » Nous ne savons pas tout. Nous ne contrôlons pas tout. Et ça, c'est une source d'incertitude. Nous connaissons partiellement, nous prophétisons partiellement, dit le verset en entier. Même les scientifiques sérieux doutent. Ils disent, ben voilà, c'est ce qu'on sait aujourd'hui, voilà les choses qu'on a pu établir. Mais peut-être qu'on va faire des découvertes ou faire des expériences ou apprendre des choses nouvelles qui vont complètement bouleverser notre manière de comprendre. Même la science est provisoire. On ne connaît qu'en partie, même dans le domaine des sciences. Et puis nous-mêmes, regardez vos souvenirs. Est-ce que vous vous souvenez toujours parfaitement des choses qui se sont passées? Mais non, nos souvenirs se dégradent, se perdent. Nos certitudes d'un jour ne sont plus celles d'aujourd'hui. Elles s'effilochent, même le monde dans lequel nous vivons. De quoi est-ce que sera fait le mois prochain? Allez savoir. Donc il y a des incertitudes et c'est normal. Fondamentalement, on ne sait pas quoi demain sera fait, on n'est pas sûr de grand-chose, et parfois on se demande si ce qu'on a cru jusqu'à aujourd'hui sera encore valable demain. Le doute vient de l'incertitude, en tout cas en première approche. Si j'étais certain de cette chose, je n'aurais pas de doute. Mais voilà. Maintenant, est-ce que c'est mauvais de douter? Est-ce que c'est mauvais de douter? Eh bien, ça dépend. Ben oui, quand le serpent vient introduire le doute, Dieu a-t-il vraiment dit? Ève doute de la parole que Dieu a dite. Elle aurait mieux fait de douter du serpent, franchement. C'est qui celui-là qui vient me dire « Dieu a-t-il vraiment ?» Ce doute ne portait pas dans la bonne direction, tout à coup. Et bien sûr qu'il faut douter des menteurs, de ce que disent les menteurs, de ce que disent les beaux parleurs, de ce que disent les gens qui viennent essayer de vous entraîner dans telle ou telle direction, des flatteurs. Des gens qui font des promesses qu'ils ne tiennent pas. En politique, c'est fréquent. Il vaut mieux douter, de faire attention. Douter, ça veut dire, en fait, mais est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? C'est une manière de dire, mais attention, je dois être attentif pour distinguer le vrai du faux. Il y a un proverbe, dans Proverbe 25, 19, qui est intéressant, il dit « Se fier à un homme déloyal au jour du malheur, c'est comme se fier à une dent branlante pour mâcher ou à un pied cassé pour courir. Se fier à un homme déloyal au jour du malheur, c'est comme se fier à une dent branlante pour mâcher ou à un pied cassé pour courir. » Proverbe 25, 19. Et la langue est un feu, dit Jacques aussi. La langue est le monde de l'injustice. Donc les paroles que nous entendons, elles peuvent dire le vrai, elles peuvent dire le mensonge. On doit être attentif. On doit donc, quelque part, utiliser, maintenant que le doute a été introduit, eh bien, il faut l'utiliser à bon escient. Et moi qui suis professeur de philosophie de métier, ben, je sais qu'il y a au moins un philosophe qui a dit, mais il faut utiliser le doute avec méthode. Pas n'importe comment. Et dire finalement, on est à la recherche du vrai. Je parle de Descartes qui disait, moi je veux marcher avec assurance en cette vie. Donc je veux pouvoir, fonder ma vie sur des certitudes, sur des choses qui sont pour lesquelles je n'ai aucun doute. Et il est allé très très loin dans ce doute méthodique, par exemple, il disait, oui, mais mes sens, est-ce qu'ils sont toujours fiables ? Non. Parfois, je vois quelque chose et puis je prends cette chose pour une autre. Je vois une personne s'approcher. Ah ben tiens, c'est tel et tel de mes amis. Ah ben non, ce n'était pas lui. J'ai eu une illusion d'optique. Parfois, j'entends, et de plus en plus, une chose pour une autre. Même avec les appareils auditifs. Mes sens sont trompeurs. Est-ce que vous trouvez qu'il fait trop chaud ou trop froid ou que c'est la bonne température ici? Ben, peut-être que ça dépend de votre état du moment. Hein? Donc on a. Non, mais est-ce qu'on peut faire confiance à un ami qui nous a une fois trompé? Disait Descartes. Non, pas vraiment. Et donc lui dit tout ce en quoi je ne peux pas avoir une entière confiance, j'oublie. Et donc à un moment donné, il doute même s'il a un corps. Et il dit, mais finalement, je suis quoi ? Qu'est-ce qui reste ? Je pense, je suis, j'existe, ça oui. C'est tout ce qui reste. C'est tout ce qui reste. Il ne sait même plus s'il a un corps, si le monde existe. Le monde extérieur existe autour de lui dans cette réflexion. Puis il dit, mais quand même, je ne suis pas content, c'est imparfait, ce n'est pas satisfaisant. Je ne peux pas rester là. J'aspire à quelque chose de vrai, de plus, d'une connaissance parfaitement vraie. Et ça vient d'où, cette histoire de parfait, de connaissance parfaitement vraie, d'aspiration à quelque chose de... Ça ne vient pas de moi. Hein. Moi, je vois bien que je suis imparfait, que je suis incapable d'une vérité au-delà de « je suis, j'existe ». Puis, mais si j'ai cette idée en moi, c'est qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Elle a été mise en moi par quelque chose, par un être qui est au moins aussi parfait que l'idée que j'en ai, donc Dieu. Je doute, j'aspire à du parfait, donc Dieu existe. Vous voyez, c'est étonnant. Il est au fin fond du doute et il en arrive à ce qu'on pourrait appeler une preuve de l'existence de Dieu. Alors j'ai tenu ce raisonnement, ça a pris quoi, une minute, deux minutes, et on arrive avec le doute méthodique, en vue de la vérité. Pas pour dire, ouais, ben, je doute de tout et puis j'ai plus besoin de m'occuper de quoi que ce soit. On arrive à une preuve de l'existence de Dieu. Peut-être que vous avez de la peine avec ce genre de raisonnement, et je vous comprends, hein. C'est un raisonnement. Ah bon, c'est comme ça. Mais on est un peu. On craint de se faire avoir quand même. On a l'impression qu'il va trop vite. Il parvient très vite, trop vite à une conclusion qui se veut définitive. Bon, c'est juste. Par principe, il vaut mieux douter de ce qui n'est pas évident. Mais le Dieu dont il parle, est-ce que c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Est-ce que c'est le même que celui que Jésus appelle son Père? Ben, franchement, chez lui, moi, je crois que c'est plutôt un Dieu conceptuel. C'est un être absolument parfait. C'est une idée, une sorte d'idole. C'est pas le Dieu de Jésus-Christ, pas vraiment. Enfin, moi, je pense qu'on peut douter du raisonnement de Descartes en se disant, mais est-ce que par rapport au Dieu qui s'est révélé avec, par sa parole. Et dans l'histoire, est-ce que c'est le même? Je ne suis pas tout à fait sûr. Et puis, si j'ai une preuve de l'existence de Dieu, ben, je n'ai plus besoin de croire. Or, le juste vivra par la foi. J'ai un problème. Si j'ai une certitude de ce genre-là, je dois me méfier parce que la foi, c'est une attitude qui m'est demandée par Dieu. Et donc, si j'ai toutes les preuves et que je n'ai plus besoin de croire, j'ai un problème. Voilà, mais on doute quand même, hein, on se méfie, on manque de sûreté, on manque de sécurité, on perd confiance dans les autorités. Mais parfois, on accueille des discours arrogants comme la vérité. Ceux qui prétendent tout comprendre et tout savoir. Il y a des personnes qui finissent par douter de tout, sauf des fake news. Comment dépasser cette question du doute et de l'incertitude? Ben, c'est par la foi qu'on dépasse tout ça. Par la foi. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par la foi? J'ai longtemps pensé que la foi, c'était une espèce de synonyme de la croyance. C'est-à-dire une forme de connaissance un peu incertaine. Si je suis sûr, je n'ai pas besoin de croire. Donc la croyance, une forme de connaissance imparfaite, quand on croit quelque chose sans preuve, en craignant peut-être que ce soit une illusion. Et puis, une croyance, elle est facilement renversée par les doutes. Et puis, on pourrait dire, je veux bien croire que Dieu existe, mais il y a des moments où j'en doute. En tout cas, j'ai été dans cette position longtemps. Seulement, dans la Bible, le mot croire, ce n'est pas synonyme de croyance. Ce n'est pas savoir mal croire. C'est fondamentalement faire confiance. C'est d'abord faire confiance. J'ai un gros dictionnaire très lourd, il fait plus de 3 kilos à la maison, c'est un dictionnaire grec-français, fait par un certain monsieur Bailly, que j'ai trouvé aux puces, j'étais très content. Et j'ai regardé comment il traduisait le mot qu'on traduit par foi, pistis. Eh bien, le premier sens qui est donné, c'est faire confiance. Le deuxième sens, la fidélité. Et la croyance et la foi viennent en quatrième position dans les sens successifs de ce mot pistis. Et donc, ça change la donne. Parce que ce n'est pas juste une croyance vague, la foi. C'est une attitude de confiance, c'est une attitude de fidélité envers Dieu. Et cette foi, au sens de la confiance en Dieu, elle a un potentiel immense. Selon les paroles de Jésus, il suffit d'en avoir une toute petite quantité, l'équivalent d'une graine de moutarde, pour être capable de faire des choses stupéfiantes. Déraciner un arbre et lui dire « va te planter là, dans la mer », ou déplacer des montagnes. Alors, je pense que j'ai encore à travailler pour en avoir autant qu'une graine de moutarde, parce que j'ai encore déplacé aucune montagne le jour où je dis au chasseral « va te planter dans le lac de Bienne », ça va se savoir. Et puis, la foi, c'est aussi le moyen du salut, un don de Dieu, quelque chose qui nous justifie à ses yeux. Donc, vous voyez, c'est très important de bien définir les termes qu'on utilise. Si je dis la foi, c'est la croyance, eh bien, je passe complètement à côté de la fidélité, à côté de faire confiance. Et puis, la foi, elle tient à autre chose qu'à ce qui se voit. Elle tient à autre chose qu'au visible. Vous savez bien ce fameux verset de Hébreux 11:1 qu'on cite beaucoup. On dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et qu'elle est aussi une démonstration, littéralement une preuve, de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et il est dit juste ensuite que ce qu'on voit n'a pas été fait par des choses visibles. C'est néanmoins une ferme assurance, on ne doute pas, alors que du point de vue de l'expérience courante, du point de vue empirique, rien ne la fonde. Ferme assurance, démonstration, c'est la fin de l'incertitude. Et puis, n'est-ce pas, une démonstration des choses qu'on ne voit pas, qui ne sont pas évidentes. Parce que ce qui est évident, littéralement, c'est ce qu'on voit, c'est ce qui se donne à voir. Mais et nous sommes parfois comme Thomas qui, lui, voulait voir, il voulait toucher, il voulait utiliser ses cinq sens pour être certain que cet homme ressuscité, qu'on disait ressuscité, c'était bien Jésus, que Jésus était bien ressuscité. Nous sommes attachés au visible, nous sommes attachés à la sensation. Loin des yeux, loin du cœur, comme dit le proverbe. Mais la Bible, la parole de Dieu, c'est avant tout une parole, justement, et qui s'adresse plutôt à l'oreille, à l'ouïe, avant de se manifester dans les choses visibles. Le tout premier commandement qui vient même avant les autres du Décalogue, avant même qu'il ne soit demandé, qu'il ne nous soit demandé d'aimer Dieu, c'est « Écoute, Israël, écoute. » Et l'écoute est la condition de la suite. L'écoute, c'est la possibilité de recevoir ce que Dieu dit. Et donc, parfois, on doit croire contre toute évidence. Pensez aux héros de la foi qui sont énumérés ensuite dans l'Épître aux Hébreux, dont certains sont morts avant d'avoir vu la réalisation de la promesse qui leur a été faite. Quand on croit contre toute évidence, dans l'incertitude, peut-être, mais on accorde sa foi, on accorde néanmoins sa confiance à Dieu, sans douter de l'exaucement, tôt ou tard, ou de l'accomplissement de la promesse. D'une certaine manière, croire, c'est ne pas douter, même dans l'incertitude. Alors c'est difficile parfois, ça peut paraître déraisonnable, puisque même ceux qui nous sont donnés en exemple, ces héros de la foi, n'ont pas tous obtenu de leur vivant ce qui leur avait été promis. Mais la vie continue au-delà. Écoutez, par rapport à cette question du visible et puis d'entendre, je sais pas, il y a une blague que vous connaissez peut-être. C'est l'histoire de ce type de nuit qu'on voit qui est sur un trottoir sous un réverbère et qui cherche quelque chose. Puis quelqu'un arrive, dit « Bonsoir, monsieur, vous avez un souci ?»« Oui, je cherche mes clés. J'ai perdu mes clés. » « Bon, ben, je peux vous aider. Vous les avez perdues ici ?»« Non, je les ai perdues un peu plus loin. » Là-bas, mais pourquoi vous cherchez ici? Mais là-bas, il n'y a pas de lumière. Ben, en matière de foi, peut-être que nous lui ressemblons parfois. Hein. Nous voudrions voir, mais nous devons écouter. Nous voudrions comprendre les choses rationnellement, à la manière des philosophes. Nous aimerions que nos raisonnements soient concluants, que notre y aller avec notre sagesse, notre théologie toute nourrie de rationalité. Ben, ça éclaire, mais ce n'est pas la même région que celle que la foi nous ouvre. Il faut chercher au bon endroit. Il ne faut pas aller simplement là où il y a de la lumière, comme le type qui cherche ses clés, parce qu'il ne va jamais les trouver là. Alors, les philosophes, ils cherchent à comprendre, mais le Seigneur nous invite à croire et à lui faire confiance. Pas besoin de comprendre pour croire. Mais, à partir du moment où on croit, on peut comprendre des choses qu'on ne saisissait pas avant. Croire nous ouvre la compréhension de choses cachées à la raison, parce qu'elles sont sensibles au cœur, plutôt qu'au cerveau. C'est ce que disait Blaise Pascal. Et puis, faire confiance, c'est un acte. Je décide de faire confiance à une personne. Je décide de mettre ma confiance en Dieu. C'est un acte volontaire. Et puis, peut-être un acte qui représente une certaine forme de violence, peut-être envers soi-même, parce qu'il est dit aussi que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu, ceux qui en veulent. Il faut se mettre en action, il faut mettre sa foi en action pour qu'elle soit vivante. Il faut ne pas craindre d'entrer dans ce que Dieu donne et craindre peut-être le jugement des autres si on le fait. Ne pas avoir peur non plus de se laisser transformer par lui. Parce que il nous transforme, il nous donne une nouvelle identité, il nous fait naître de nouveau, on n'est plus les mêmes au bout d'un moment, si on s'est laissé transformer. Et puis, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Hébreux 11, 6. Sans la foi, il est impossible de lui plaire. Et l'autre verset, Éphésiens 2:8, « C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Et ce verset que j'avais cité, « Le juste vivra par la foi », c'est une citation de Habacuc 2:4 qui est reprise dans l'Épître aux Romains, quand Paul dit ceci, je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. En effet, la justice de Dieu s'y révèle par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc, voyez, cette foi, cette confiance, cet acte volontaire, il est nécessaire. Il est, je pense, à réitérer, renouveler jour après jour. Et c'est aussi notre protection dans toute la panoplie de l'armure du chrétien dans Éphésiens 6. La foi, c'est le bouclier. C'est la foi qui éteint les traits enflammés du malin, donc ce qui nous protège. Et puis ensuite, on peut contre-attaquer avec l'arme qui nous est donnée, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, et cette parole de Dieu qui nous permet d'affirmer « Non, il est écrit ». Maintenant, qu'est-ce qui fait diminuer la foi ? Qu'est-ce qui fait que notre foi peut diminuer ? Mais il y a quand même le doute. Le doute, et Jésus reproche parfois à ses disciples de manquer de foi. Quand Pierre marche sur l'eau, tout à coup il a peur, de s'enfoncer. Il s'enfonce. Jésus l'empoigne pour le tirer de là et lui dit « Homme de peu de foi ». Il ne lui dit pas « T'as pas bien marché » ou bien « T'as pas mis les pieds » ou comme il fallait. « Homme de peu de foi ». Pourquoi as-tu douté ? Et c'est la peur, la crainte qui diminue la foi. Dans les, j'ai essayé de chercher dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles, mais qu'est-ce qui, quand on reproche aux gens de manquer de foi, qu'est-ce qui se passe ? Ils ont peur. C'est la crainte. On le voit aussi en Matthieu 8, 26, il y a une tempête et puis les disciples ont peur, tandis que Jésus dort. Il le réveille. Il dit, mais pourquoi êtes-vous si craintif, homme de peu de foi ? La crainte et le manque de foi vont ensemble. Où est votre foi ? Le doute, il est nourri par la crainte et par la peur. Et donc, vous voyez, dans ce sens-là, le doute vient de la peur. L'incertitude, c'est un peu différent. Le doute qui fait baisser le niveau de foi vient de la crainte. Peur de mourir, peur de Jésus. Par exemple, quand les disciples le prennent pour un fantôme. C'est moi, n'ayez pas peur. La foi défaille quand on a peur. Quand j'ai peur, je ne fais plus confiance. Et il y a aussi, dans les évangiles, des exemples d'une grande foi. Et c'est intéressant de voir quels sont les exemples d'une foi que Jésus reconnaît, que Jésus salue. Par exemple, la foi de la femme cananéenne qui vient supplier Jésus de guérir sa fille et puis qui insiste, c'est dans Matthieu 15, « Femme, ta foi est grande ». Celle du centurion qui demande à Jésus de guérir son serviteur. Et Jésus dit « En vérité, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une si grande foi. » Ou encore la femme qui vient par derrière Jésus et qui souffre d'une perte de sang, qui vient toucher son vêtement, et Jésus se retourne, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. » L'aveugle qui vient demander la guérison à Jésus et où lui aussi est reconnu pour sa foi, de même que le lépreux qui a été guéri, qui est le seul à venir remercier Jésus, eh bien, voilà quelqu'un dont Jésus reconnaît la grande foi. Mais alors, bilan des femmes, des étrangers, des malades, ce sont ces personnes-là qui n'ont pas craint d'aller à Jésus. Alors Jésus dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Marc 2, 17. Et moi, je me demande si on n'est pas bien plus malades, nous-mêmes, spirituellement en tout cas, que nous ne le pensons. Et je crois que si c'est une question qu'on peut se poser, et à ce moment-là, on peut prier et aller à Jésus pour demander guérison de cette foi défaillante, peut-être, de cette crainte, de ce manque de confiance en lui. Alors bon, voilà, la crainte est dangereuse pour la foi. Mais il y a aussi autre chose, c'est peut-être tout simple. Bon, à quoi est-ce que je fais attention ? Si je me laisse aller à la vie courante, j'y vais au jour le jour, je trouve mes plaisirs, mes divertissements là où le monde me les propose. Au bout d'un moment, j'ai l'impression que c'est bien plus réel, que c'est bien plus fort que ce en quoi je crois, eh bien, ma foi, elle va diminuer aussi. Suivant ce à quoi je fais attention, suivant les choses que je cultive, suivant les choses dont je me préoccupe. Si je me consacre aux choses du monde, ma foi va s'en ressentir. Si je recherche des sensations agréables au lieu de la joie en Dieu, ma foi va s'en ressentir. L'attention, a dit quelqu'un, c'est la monnaie de l'adoration. L'attention est la monnaie de l'adoration. Plus je fais attention, plus je me préoccupe des choses de Dieu, plus ma foi est nourrie. Et ce à quoi nous prêtons le plus attention, c'est ce que nous mettons au sommet de nos vies. C'est la chose qui devient la plus importante, celle en laquelle nous mettons notre confiance pour notre sécurité, nos espérances, notre envie de vivre, d'aimer ou d'être aimé. Et cette confiance, eh bien, en quoi est-ce que nous mettons notre foi ? J'ai déjà dit tout à l'heure, loin des yeux, loin du cœur. Bon, ce n'est pas que des choses visibles, mais à quoi faisons-nous attention ? Et je pense qu'il faut une disponibilité plus grande pour les choses de Dieu, du temps passé dans la prière, dans la lecture de la parole, dans des espèces d'entretiens spirituels qu'on peut avoir avec des personnes ou certains auteurs, faire baisser l'incertitude, augmenter la foi, expérimenter la présence de Dieu, expérimenter l'exaucement de certaines prières. Voilà des expériences intérieures. Ce n'est pas les expérimentations scientifiques, c'est très différent, mais qui font augmenter notre foi, qui augmentent notre désir de nous rapprocher encore davantage de Dieu. Et donc, si nous avions toutes les certitudes, si tout était devant nos yeux, on n'aurait plus besoin de la foi, ni de Dieu. Alors, on est quand même dans le monde, les gens voient bien, ils disent « oui, mais est-ce que vraiment ceci ou cela ?» Et là, il y a une parole de Blaise Pascal, que j'ai déjà cité autre chose de lui tout à l'heure, qui dit « il y a assez de lumière pour ceux qui ne désirent que de voir, et assez d'obscurité pour ceux qui ont une disposition contraire. Il y a assez d'arguments et de motifs de croire en Dieu pour ceux qui le veulent, et assez d'obscurité dans le monde pour que ceux qui ne veulent pas croire se trouvent justifiés aussi. Mais c'est à toi de choisir. C'est à toi de choisir. Il y a pas, ce ne sont pas des arguments suffisants. Il dit aussi, il faut travailler pour l'incertain ou dans l'incertitude et aller sur mer, et aller dans et se mettre en route, s'embarquer. Sinon, on reste sur la rive et il ne se passe rien. Je termine par un verset que je trouve très beau. Enfin, c'est deux versets, c'est Jude 20 et 21, mais que je vous laisse comme une conclusion et comme une recommandation, mais vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi. C'est étonnant cette expression, votre très sainte foi. Édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi, priez par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Mais vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi, priez par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Soyez bénis.